essas pessoas fazem parte do meu coração. Se a prosa não te deu motivos pra viver, deixa o resto com o incerto.
Bienvenue sur RDBB, la radio des Blouses Blanches. Nous sommes le 13 février, il est 14h45. Aujourd'hui, rien que pour vous, il n'y aura pas une, mais deux animatrices. Bonjour, moi c'est Laurie.
Bonjour, moi c'est Mélodie. Alors, au sommaire de l'émission des FCPM promo 2014, deux grands thèmes, la cigarette et la santé, avec une revue de presse, un micro-trottoir et une interview. Mais d'abord, une présentation de notre formation, du concours et du métier enfermé s'impose.
Tout de suite, Justine va nous présenter la formation dans laquelle nous nous trouvons.
Bonjour, pour ceux et celles qui souhaitent préparer les concours paramédicaux sans se ruiner, il existe une formation FCPM au lycée Louis-Audouin Dubreuil à Saint-Jean-d'Angély. Au fait, FCPM, ça veut dire formation aux concours paramédicaux. L'emploi du temps se répartit sur 3 jours de la semaine, lundi, mardi et jeudi. La formation se déroule sur 20 semaines, elle débute au mois de septembre et se termine avant les vacances de février. Elle concerne aussi bien les futurs aides-soignants que les futurs infirmiers. Vous aurez des cours de culture générale, de tests psychotechniques et de la communication. La culture générale traite des sujets sanitaires et sociaux d'actualité, comme le système français, plus précisément la sécurité sociale, et la pollution. Cette matière compte 9 heures de cours par semaine. Les 2 heures de tests psychotechniques hebdomadaires vous permettront d'adopter de meilleures techniques de calcul et de vous entraîner à différents types de raisonnement. Ces deux matières représentent les deux épreuves écrites du concours. Ensuite, la communication nous apprend à définir nos motivations, nos qualités et nos défauts pour préparer l'oral et d'autres aspects qui nous seront bénéfiques le jour de l'entretien, comme le comportement à adopter face aux examinateurs, tels que la posture.
Mais dis-moi, c'est tout ce que l'on trouve dans cette formation ?
Non, bien sûr. Chaque semaine, des intervenants vous présenteront le métier dans sa globalité. Afin de se préparer correctement au concours, 2 heures hebdomadaires seront consacrées à des devoirs. Puis, pour vous conforter dans votre projet professionnel, 2 semaines de stage sur 2 périodes différenciées sont intégrées dans l'emploi du temps. Tout d'abord, 2 semaines de stage avant les vacances de la Toussaint, puis 2 semaines avant Noël qui vous aideront à structurer et affirmer vos motivations. Ces stages sont à chercher par vous-même dans le milieu qui vous attire le plus, libéral, hospitalier, maison de retraite.
Et en fait, comment fait-on pour accéder à cette formation, Justine ?
Alors, pour accéder à cette formation, il faut être âgé d'au minimum 17 ans et être titulaire du baccalauréat, quel qu'il soit. Même si elle est gratuite, cette préparation sélectionne 30 candidats. Pour faire une demande d'inscription, il faut passer par APB, c'est-à-dire Admission Post-Bac, le site du rectorat. L'inscription et le choix des vœux sur ce site s'effectuent avant le 20 janvier et le 20 mars. Ensuite, attention à ne pas oublier d'envoyer les dossiers avant le 2 avril, mais ne vous inquiétez pas, toutes ces étapes seront indiquées par post-bac.
Voilà, maintenant vous savez tout sur le FCPM. Ivana va nous expliquer à son tour le concours.
Bonjour et bienvenue ici RDBB. À la recherche d'une profession passionnante et humaine, le concours est une des voies d'accès au métier d'infirmière.
Pour le côté administratif, on fait comment ?
Être âgé de 17 ans minimum, aucune limite d'âge. Il peut vous être demandé une photocopie du carnet de vaccination et un certificat médical afin de vérifier votre condition physique et mentale. Il est ouvert à un grand nombre de candidats, et ceci quel que soit le parcours scolaire. Il est impératif tout de même de remplir les conditions suivantes comme avoir le bac, possibilité pour les terminales de le passer, mais seule l'obtention du bac valide admission au concours. Pour les élèves en PACES non admis en deuxième année, possibilité de passer directement à l'oral à condition d'avoir validé les unités d'enseignement. En ce qui concerne les aides-soignantes, une expérience professionnelle de 3 ans s'impose enfin de passer le concours. Pour toute personne sans bac ou expérience dans le domaine médical, une expérience professionnelle de 5 ans est demandée.
Maintenant, voyons le contenu du concours.
À noter, le concours se partage en 2 parties. D'un côté, l'écrit, composé de 2 épreuves, culture générale concernant les sujets sanitaires et sociaux et les tests psychotechniques. Et enfin, l'oral. Il est possible de passer le concours sur tout le territoire. Nous en comptons 300 IFC. En ce qui concerne notre belle région en Poitou-Charentes, nous en disposons 7. Celui de Thouars, Poitiers, Niort, La Rochelle, Rochefort, Saintes et enfin Angoulême. un petit topo en ce qui concerne les études. Elles s'étendent sur 3 ans et sont divisées en 6 semestres, durant lesquels 10 compétences seront à valider à l'aide des cours et des stages. Voilà, chers auditeurs, pour toute autre information, n'hésitez pas à consulter le site infirmier.com. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains.
Merci Ivana pour cette présentation si précise. J'espère que les futures infirmières s'y retrouveront.
Et maintenant, nous accueillons Marine, qui va nous parler du métier infirmier. Bonjour Marine.
Bonjour Mélodie. Eh bien effectivement, je vais vous parler du métier infirmier.
Eh bien vas-y, on t'écoute.
Eh oui, pour tout savoir du métier infirmier, nous nous sommes dit qu'il fallait rencontrer une pro. C'est pourquoi nous avons interviewé l'infirmière du lycée Louis-Audin Dubreuil, Madame Mesfioui. Diplômée depuis 1986, cette infirmière a vécu plusieurs expériences. Elle a travaillé aux urgences, au bloc, en maison de retraite et à domicile. Elle a également exercé pendant 10 années au Maroc. Depuis 14 ans, elle est infirmière scolaire. Nous nous sommes donc interrogés sur les ficelles du métier que nous n'apprenons pas à l'école. Voilà ce que l'infirmière nous a répondu.
Bien se débrouiller, à faire face à l'urgence, ou des fois on a des situations qui sont vraiment incroyables. Et on se demande des fois, comment je vais gérer ça? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on apprend dans les livres, mais il y a surtout un sens de logique, de bon sens, et de se faire entourer au plus vite, dès qu'on peut. C'est toujours positif de prendre des avis dès qu'on a la possibilité de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a plein de situations qui nous arrivent et que c'est souvent la qualité de l'infirmière, son savoir général, son bon sens qui font qu'elle va prendre à la volée des situations critiques parfois et qu'il va falloir qu'elle juge en très peu de temps la situation et l'orientation qu'elle doit faire au plus vite.
Puis, nous lui avons demandé quelles sont les principales qualités requises pour être une bonne infirmière.
Moi, je resterai toujours sur les qualités humaines. Hein. Je crois que si dans ce métier, on n'aime pas les gens, on n'aime pas faire du bien. Pour moi, c'est être empathique, c'est essayer de comprendre ce que peut ressentir un autre, même si ne pas être dans le jugement, hein, ça, c'est très important. Et ce n'est pas si facile que ça. Avec de l'expérience, on finit par bien y arriver. Il y a tellement des gens qui jugent les situations, parce que des fois, vous pouvez entendre des choses difficiles qui ne sont pas toujours dans nos valeurs, dans notre morale. Hein. Donc, c'est vrai que c'est vraiment faire la part des choses et être dans le soin et dans l'accompagnement et dans la compréhension et pas dans le jugement et la condamnation. Et ça, je crois que c'est primordial. Et d'essayer tout le temps de soulager l'autre, d'être auprès de l'autre, que ce soit des vieillards, des enfants, des plus jeunes, des hommes, des femmes d'un âge moyen. C'est pour tout le monde. Hein. Ça, je crois que c'est en soi. Je crois qu'il y a aussi quelque chose en soi pour faire ce métier. C'est avant tout être humain. Voilà. Moi, je mettrais ça en avant.
Et pour terminer, elle a bien voulu nous faire part des difficultés rencontrées lors de son parcours.
Alors, comme moi, j'ai fait les urgences, je crois que les grosses difficultés ont été plutôt à ce niveau, lors de ce poste-là, où il a fallu faire face quand même à des décès d'enfants, par exemple, hein, où il fallait mettre, du coton dans le nez. Chez mes collègues qui avaient des enfants à l'époque, ne voulaient jamais faire ça. C'était toujours moi qui m'y collais, parce que j'étais la célibataire du moment. La jeune infirmière qui arrivait, des choses qui étaient quand même très difficiles. Faire face aussi à une section complète de jambes. Je me rappelle l'anesthésiste qui m'avait dit « prenez la jambe », elle était hyper lourde, je ne savais pas quoi en faire, j'étais un peu gauche à l'époque, et puis c'était un peu aussi la surprise de ce qui se passait, donc il faut faire face, et puis pas s'écrouler évidemment, être présent, et même des secours routiers qui ont été très difficiles, notamment avec les enfants. Je crois que ce qui a été avec les enfants a été le plus dur.
Eh bien voilà ce que l'infirmière a pu nous apporter sur le métier. Ses propos ne sont pas à généraliser, car ils sont propres à son parcours. Cependant, ce sont des situations que nous pouvons rencontrer.
Merci beaucoup Marine pour toutes ces informations très intéressantes. Et maintenant, une petite pause musicale. Bueno, si. Mira quién llegó. Son 21. De dónde vengo. A dónde voy. Y cómo vengo. Cómo estoy. Ojo, y careful, que ya llegué. Oh,
voy se formar.
Parlons maintenant d'un sujet de santé publique, le tabac. Accueillons Justine pour sa revue de presse sur cette thématique.
Rebonjour. Effectivement, nous venons de connaître la troisième augmentation du prix du tabac en 15 mois. Elle doit faire chuter la consommation de tabac des Français. Initialement prévue fin décembre 2013, cette hausse du prix entre en vigueur le 6 janvier 2014, d'après le Point du 10 janvier. Le prix de toutes les marques de cigarettes en France augmente de 20 centimes. À la fin décembre, cette hausse avait été repoussée d'une semaine, car les fabricants souhaitaient une hausse permettant de répercuter le relèvement de la TVA et l'augmentation de la part de revient des buralistes. Le prix du paquet le plus vendu, Marlboro, est désormais à 7 euros.
Concernant les autres pays européens, où en sommes-nous ?
En ce qui les concerne, les autres pays tels que l'Espagne est à 4,50 euros. Dans les zones frontalières, les résultats sont différents. Il y a des effets de déplacement, de marché noir, de l'adaptation de la part des consommateurs. 80% du prix du tabac est constitué de taxes. 8,74% reviennent aux buralistes et le solde aux fabricants. Les ventes de cigarettes en France ont baissé d'environ 8% en 2013 selon les derniers chiffres donnés du ministère de la Santé. D'après Le Monde du 9 décembre 2013, les buralistes exigent le monopole des cigarettes électroniques du fait qu'il y ait de la nicotine. Pour eux, c'est un produit du tabac. Cependant, la vente de cigarettes électroniques demande des connaissances. 4 fumeurs sur 10 disent que le tabac a des effets négatifs, preuve que la prévention et les effets du tabac sur la santé ont fait leur chemin.
Merci beaucoup Justine pour cette revue de presse très intéressante.
Tout de suite, accueillons Laurine sur notre plateau. Elle va nous présenter un micro-trottoir sur l'augmentation du prix du tabac. Bonjour Laurine.
Bonjour Mélodie et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors, explique-nous ce que vous avez fait.
Nous sommes allés un jeudi midi dans la galerie marchande d'Intermarché à Saint-Jean-d'Angély. Nous avons posé des 3 questions aux personnes qui ont bien voulu nous répondre.
À présent, écoutons ce reportage.
Considérez-vous que c'est efficace ?
Non, il y a toujours autant de fumeurs. Donc, ça ne s'avère pas très efficace. Non, je pense que ça n'a pas d'impact. Puisque ça n'a pas beaucoup d'impact sur la diminution du nombre des fumeurs.
Parce que les gens iront quand même en Espagne les chercher parce qu'elles sont moins chères.
Parce qu'on va augmenter les clopes, le prix des cigarettes qui vont arrêter de fumer.
Quelles sont pour vous les raisons de cette augmentation ?
Les impôts, je suppose. Il n'y a pas assez de... Faut faire rentrer de l'argent dans les caisses.
Peut-être pour la sécu, pour renflouer le trou de la sécu, ce genre de choses. Enfin...
Les raisons, on les connaît pas trop bien. Je pense qu'on est à force les taxes, les choses comme ça. Les raisons sont multiples, mais on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe réellement. Ouais, les prix augmentent, mais on sait vraiment pas pourquoi en réalité, quoi.
Raison économique, hein. Et puis raison, qu'est-ce que ça pourrait être comme raison aussi ? Bon, question santé, hein, puisque vous êtes élève infirmière, c'est future élève infirmière, c'est santé pour limiter la consommation.
Pour enfuir les caisses de l'État, peut-être.
Pour vous, quels sont les risques du tabac ?
On les connaît tous, hein. Il y a les cancers, les maladies cardiovasculaires, entre autres.
Oui, voilà, maladie cardiovasculaire, voilà, poumon, maladie pour l'entourage également.
Nous avons pu entendre que nous sommes mal informés sur les raisons de l'augmentation du prix du tabac. Malgré tout, les Français connaissent les risques du tabac sur la santé.
Merci Laurine pour ce micro-trottoir qui a fait le point sur l'opinion publique.
Après ce témoignage sur l'augmentation du tabac, nous allons voir un nouveau phénomène commercial, la cigarette électronique, avec Morgane.
La cigarette électronique, ou e-cigarette, est un dispositif électronique générant un aérosol destiné à être inhalé. Elle produit une fumée artificielle ressemblant à la fumée produite par une cigarette classique. Cette vapeur peut être aromatisée et contenir ou non de la nicotine. Elle n'a pas l'odeur de tabac et, contrairement à la cigarette classique, la cigarette électronique contient des quantités de particules et substances cancérigènes beaucoup plus faibles. Le concept de la cigarette électronique est élaboré par M. Gilbert en 1963, avec un brevet déposé en 1965. il fut contacté par des sociétés souhaitant fabriquer cette cigarette, mais son invention ne fut jamais commercialisée. Le premier dispositif rendu public a été réalisé en 2003 par un pharmacien et ingénieur chinois, qui a déposé le brevet en 2005. La technologie de vaporisation par résistance chauffante, la plus répandue pour les cigarettes électroniques, a été inventée et brevetée en 2009. Elles sont pour la plupart fabriquées en Chine. La e-cigarette se compose d'une batterie, d'un atomisateur permettant de chauffer le e-liquide et d'un réservoir. Ce e-liquide se compose de propylène glycol, un produit chimique peu toxique et très répandu, de glycérine, un produit fabriqué à partir de graisses végétales, d'arômes d'origine naturelle ou synthétique et de nicotine à des taux variables entre 0 et 36 mg par millilitre. Le principe d'une cigarette électronique est de produire de la vapeur. Il existe deux techniques, la plus utilisée étant la résistance chauffante. La résistance chauffe le e-liquide qui s'évapore et l'utilisateur peut alors inhaler cette vapeur. Comme la cigarette électronique ne contient que très peu de substances cancérigènes, elle serait moins nocive pour la santé que la cigarette classique. Même si les effets d'une inhalation à long terme sont encore méconnus, la cigarette électronique serait aussi, voire plus efficace que le patch pour arrêter de fumer. La cigarette électronique a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 3 milliards de dollars. Elle est commercialisée via plusieurs circuits de distribution, des marchands de journaux, quelques pharmacies et des boutiques spécialisées.
Merci beaucoup Morgane. Et maintenant, Morgane, Jessica et Kelly ont interviewé Frédéric, gérant du magasin Liberty Cigarettes, situé dans la galerie marchande d'Intermarché de Saint-Jean-d'Angély. Tendez l'oreille, il va nous parler de la cigarette électronique et des clients qui viennent acheter ses produits.
Toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les catégories d'âge, ça va du jeune de 22 ans à la personne un peu plus âgée de 70 ans, qu'il soit homme ou femme, vraiment toutes catégories. Non-fumeurs, j'ai des anciens fumeurs qui se sont arrêtés depuis un certain moment, qui ont peur de recraquer sur la cigarette et qui vont préférer reprendre sur de la cigarette électronique avec 0 mg de nicotine. Ce qui leur permet de ne pas être dépendants. Et juste le geste, le plaisir, la convivialité avec des amis, voilà, sans retomber dans l'addiction à la nicotine.
La cigarette électronique est-elle un effet de mode, un moyen d'arrêter la cigarette classique ?
Il y a un effet de mode, un effet médiatique, parce qu'on en parle de plus en plus.
Oui.
Et puis le fait est que les gens constatent également que
qu'ils arrivent à
stopper. J'ai des gens qui viennent de la part de leur médecin, de leur pneumologue, de leur cardiologue, de leur tabacologue. Qui viennent voilà, pour arrêter la cigarette électronique. Donc, maintenant, c'est devenu une alternative, une véritable alternative à la cigarette classique.
Voici maintenant l'avis de Frédéric sur l'utilisation de la cigarette électronique dans les lieux publics.
Dans les lieux publics, c'est vrai que quand on va faire ses courses ou dans les cinémas, si tout le monde se met à côté, ça peut faire bizarre. Surtout dans les écoles, les lycées, les choses comme ça, bon, ça reste toujours une incitation à fumer. Après, chacun est libre de mettre sa propre disposition, autorisée ou pas, à la cigarette électronique. Sachant qu'il n'y a pas de nocivité passive, après, chacun est libre dans son propre commerce de faire ce qu'il veut.
Et voilà, chers auditeurs, vous savez tout sur la e-cigarette ainsi que sur le tabac. Maintenant, passons au divertissement.
Et maintenant, pour tous les petits coquins, quelques mots sur la météo de demain. Car n'oubliez pas, demain, c'est la fête de tous les amoureux. Et pour cela, accueillons Morane, notre Miss Météo. Bonjour Morane.
Bonjour Mélodie et bonjour à tous nos auditeurs. Le matin, une douche torride s'abattra sur notre département avec une moyenne de 8 degrés. Pour l'après-midi, vous serez menotté à votre canapé à cause d'un nuage passager, avec une minimale de 15 degrés et une maximale de 37 degrés. Tandis qu'à l'extérieur, il fera en moyenne 13 degrés dans tout le département.
À présent, un petit point sur l'horoscope du mois avec Julie. Bonjour Julie.
Bonjour Mélodie. Ce mois-ci, c'est les Verseaux. L'humeur est surtout chagrine et le désaccord Vénus-Saturne peut entraver vos désirs immédiats. Une attente près du téléphone pour un rendez-vous manqué pourrait même parachever l'ambiance triste ou nette de cette Saint-Valentin.
Et pour finir, une citation sur la radio pour la journée mondiale.
Média nomade par excellence, émancipé de toute contrainte spatiale, la radio bouge, la radio n'est qu'un mouvement, sa seule voix, la voix. Et n'oubliez pas, sortez couvert.
Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie.
En tout cas, nous oui.
Bonne journée.
Et à bientôt sur RDBB.
Deus me deu.
pessoas fazem parte do meu coração. Se a prosa não te deu motivos pra viver, deixe o resto com o incerto. Se seu rumo não te deixa, não te deixa sonhar, tente dar um pulo em águas novas. Não tem que ter vergonha se você não se encaixa. Você é fruto desse mundo e não tem casa. Se quiser mudar, viajar e não voltar.